Bonjour à tous. Bienvenue à la remise du prix Julia Verlanger pour la 28e édition de ce prix qui a été créé par le veuf de la grande Julia Verlanger, Jean-Pierre Taïeb, qui est attribué par la Fondation Julia Verlanger sous l'égide de la Fondation de France pour des romans d'aventure populaire, de fantasy, de fantastique et de science-fiction. Cette année, les nominés ont écrit beaucoup de livres, puisque, comme vous voyez, nous avons trois séries. Donc, Le Protectorat de l'Ombrelle de Gail Carriger, Le Grimoire de Larry Correia, Le Melkin et la mort du Melkin de Olivier Paquet, Sandman Slim de Richard Cadret, Les damnés de l'asphalte de Laurent Whale et Le dernier loup-garou de Glenn Duncan. On va commencer par lire un extrait donc de Gail Carriger, des Protectorats de l'Ombrelle, traduit par Sylvie Denis, un extrait du premier volume de la série, une série qui mélange à la fois le steampunk, la bitlit, le polar, beaucoup de choses, à la fois de la science-fiction et de la fantasy. Une histoire un peu folle, très drôle, dont je vais vous lire un court extrait. Mademoiselle Alexia Tarabotti n'appréciait pas sa soirée. Un bal privé n'est jamais que moyennement distrayant pour une vieille fille. Et Mademoiselle Tarabotti n'était pas du genre à en tirer beaucoup de plaisir. Pour mettre les points sur les i, elle avait battu en retraite dans la bibliothèque, son sanctuaire favori dans n'importe quelle demeure, mais pour tomber sur un vampire surprise. Elle le transperça du regard. Pour sa part, le vampire semblait trouver que leur rencontre avait incommensurablement amélioré sa soirée au bal, car elle était assise là, sans chaperon, dans une robe de bal décolletée. Dans ce cas particulier, c'était ce qu'il ignorait qui pouvait lui nuire, car Mademoiselle Alexia était née sans âme. Ce qui, tout vampire correct et de bonne lignée le savait, faisait d'elle une dame à éviter avec assiduité. Et pourtant, il avança vers elle, ombre scintillant parmi les ombres de la bibliothèque, prêt à employer ses crocs pour se nourrir. Mais à l'instant où il toucha Mademoiselle Tarabotti, il ne fut soudain plus personne et ne fit plus rien. Il resta juste planté là, un quatuor à cordes jouant en sourdine à l'arrière-plan, tandis qu'il promenait bêtement sa langue à la recherche de crocs dont il ne savait où ni comment il les avait égarés. Mademoiselle Tarabotti ne fut pas le moins du monde surprise. L'absence d'âme neutralise toujours les pouvoirs surnaturels. Elle décocha un regard sévère au vampire. Il ne faisait aucun doute que des citoyens diurnes ne l'auraient pas considéré autrement que comme une vieille fille anglaise typique. Mais cet homme-là n'avait même pas pris la peine de lire le registre des anormaux de Londres et de ses environs que tenaient les vampires. Deuxième extrait de Sandman Slim, j'ai fait une faute sur mon slide, de Richard Cadret, traduit par Jean-Pierre Pugic, que va nous lire Cathy Martin.
Alors Sandman Slim, en gros... Oui, pardon. Sandman Slim, c'est Jim Stark qui surgit à Los Angeles après 11 ans subis aux enfers, où ses petits camarades magiciens indélicats l'avaient expédié à son corps défendant. Alors il est très très en colère quand il débarque, parce qu'en plus de l'avoir trahi, il a appris récemment en bas qu'il lui avait zigouillé sa dulcinée. Alors on est là dans de la fantaisie urbaine qui dépote, qui démarre au quart de tour. Ça dégaine sans répit. Dans l'humour décapant des dialogues, dans le défouraillage permanent d'armes conventionnelles ou pas. William Gibson en a dit que c'était la série B survitaminée, la meilleure qu'il ait jamais lue. Moi, je dis que c'est de la super bonne et on en redemande. Alors, je vais vous en lire un petit extrait. Il m'est survenu un drôle de truc pendant mon séjour en bas. Je suis devenu un mec coriace, difficile à tuer. À mon arrivée, j'étais le premier et seul humain à avoir mis les pieds en enfer avant d'avoir clamsé ce qui me valait d'être assimilé à un monstre de foire. Pour la modique somme de 1 $, entrez voir Jimmy, le petit garçon à tête de chien. Plus tard, lorsqu'ils en ont eu marre de me filer des baffes, de m'étudier sous toutes les coutures et de m'exhiber comme un caniche au pédigré long comme le bras, ils se sont dit que me regarder crever serait tout de même plus drôle. Ils m'ont envoyé combattre dans les arènes en faisant tout un cinéma. Imaginez une coupe du monde de foot qui a lieu une fois par semaine ou par quinzaine. Naturellement, vu que ça se passait en enfer et dans des arènes, la triche allait bon train. Les infernaux n'aiment pas plus perdre leur pari que les humains. Avant la plupart des combats, un entraîneur ou un assistant soudoyé m'apportait furtivement un petit remontant, des âmes particulières, des dopants diaboliques, s'il ne venait pas me murmurer des sortilèges infernaux à l'oreille. C'était utile, même si ça ne me métamorphosait pas en Superman pour autant. Je me suis fait griller et larder de coups de couteau et d'épieux. J'ai failli être débité en deux par une sorte de crabe géant au sang igné qui hurlait avec les voix angoissées des âmes de tous les adversaires qu'il avait dévorés. Mes côtes et mon crâne ont été malaxés comme de la pâte à modeler, mais j'ai survécu. J'ignore s'il faut l'attribuer au sortilège, aux drogues, à l'aquaregia ou simplement à une vie saine et exemplaire, mais j'évoluais rapidement. Chaque fois que je survivais à ce qui aurait dû m'être fatal, je devenais un peu plus fort. Il en découlait que l'attaque suivante devait être plus violente, rapide et même féroce que la précédente pour m'affecter. Finalement, j'ai même attendu ces affrontements avec impatience. Chacun d'eux modifiait mes caractéristiques, ce qui me garantissait d'être à l'avenir paré contre toute agression du même genre. Avec le temps, je suis devenu un inspecteur Harry avec blindage incorporé. Et quand les membres des classes dirigeantes, les infernaux de la vieille école et les démons en début de carrière ont décidé de se débarrasser de moi, il était trop tard. J'avais une force herculéenne et des activités bien plus intéressantes que massacrer mes adversaires dans les arènes. J'étais devenu, hors des stades, un tueur à gages infernal freelance, ce qui me valait la protection d'individus haut placés et bien plus diabolique que le diablotin à queue et pique fourchue modèle standard.
Et voilà. Autre roman retenu, Les Chroniques du Grimoire noir, traduit par Marie Sturges de Larry Correia, dont François Vanson va vous parler et vous lire un extrait.
Il s'agit du deuxième volume, donc, et un peu comme l'a présenté Cathy pour Sandman Slim, il s'agit d'aventures qui dépotent, avec un mélange très savoureux d'Uchronie, de steampunk, d'espionnage, de comics, de magie, un peu de tout, et tout ça c'est censé se passer dans une sorte d'entre-deux-guerres un peu alternatif. Où certains ont des pouvoirs, certains humains ont des pouvoirs particuliers. Donc je vous lis un extrait du début, du deuxième tome. À la grande consternation de Faye, l'ancien qui dirigeait la réunion secrète ne voyait aucune objection à ce qu'on parle pendant le film. Nous avons la certitude que cet enregistrement est récent. Le voici. Regardez bien Miss Viera, s'il vous plaît. C'était à elle. Parmi les survivants de la société du Grimoire, 3 seulement avaient jamais vu le président en personne. Or, Jen et M. Sullivan n'étaient pas là. Faye s'efforça de se concentrer, ce qui n'était jamais facile quand votre cerveau tournait tellement plus vite que celui des autres gens. Le projecteur montrait un grand défilé militaire. Des soldats de l'Imperium avançaient, presque à l'infini, aussi droit que les baïonnettes qui prolongeaient leurs fusils. En tête de colonne, un homme chevauchait un énorme étalon noir. Les milliers de spectateurs s'inclinaient sur son passage et restaient pliés en deux. Il était beau, impressionnant et beaucoup trop vivant. C'était son portrait craché. « Il doit y avoir une erreur, » dit Faye. « Le président est mort. » L'un des plus jeunes chevaliers, au fond de la salle, lança. « L'Imperium affirme qu'il n'est pas mort à bord du Tokugawa. » L'Imperium affirme aussi que le Tokugawa et le Kaga ont été détruits par une tempête, et on sait tous que c'est du pipeau. « Comment pouvez-vous être si sûr qu'il est décédé ?» demanda un jeune chevalier anglais. Son accent, c'était vraiment à ça que leur langue devait ressembler ? Irrita les oreilles de Faye. « Oh, ça, ma foi, je ne sais pas. Parce que je lui coupais les mains avant de les jeter dans une hélice ? Peut-être. Ensuite, le dirigeable explosait aussi. J'y étais, pas vous. » Et puis, John Moses Browning lui posa une main sur le genou pour la faire taire, parce qu'il savait ce qu'elle s'apprêtait à dire paraîtrait dingue, et on la jugeait déjà complètement folle, trop tard. Et puis ensuite, j'ai parlé à son fantôme. Monsieur Browning soupira. « Ridicule !» fit quelqu'un. « Non, il regrettait d'être mort. Il m'a récité un poème. Les chevaliers se mirent à parler, tous en même temps. Le film se termina. L'extrémité de la bobine claquait en rythme contre le projecteur. L'écran vira au blanc. « Cette gamine est folle, Browning !» dit un Français. Ce qui me fait en colère. Primo, elle n'était plus une gamine. Secondo, elle n'était pas folle. Le Français avait de la veine qu'elle ne voyage pas un petit coup pour embarquer sa tête très loin de lui. Monsieur Browning prit sa défense. « Cette gamine a éliminé une centaine de soldats d'élite à la solde de l'Imperium. Elle a affronté le plus grand sorcier de l'histoire, puis a emporté un dirigeable tout entier avec l'équipage de l'autre côté de la planète. Si j'étais vous, monsieur, j'adopterais un autre ton. Tout poli. Mes excuses, madame. »
Nous avons aussi beaucoup aimé Le Melkin et la mort du Melkin d'Olivier Paquet. Jeanna de Batz va nous présenter l'ouvrage et vous en lire un extrait.
Alors, c'est un grand space opéra et pas un space opéra à la française, un space opéra tout court, avec une grande ambition politique qui transparaît dans les trois volumes qu'il faut avoir lus, puisqu'on peut avoir les pistes données dans le premier et dans le deuxième qui semblent manquer, arrivent dans le troisième et clôturent réellement le cycle. Finalement, on peut se demander, à part la taille d'un livre, qu'est-ce qui a pu empêcher de publier tout en même temps ? Ça aurait été peut-être beaucoup plus agréable pour le lecteur. Quoi qu'il en soit, le projet d'Olivier Paquet est clairement de dresser l'image d'un empire galactique où la liberté de chacun d'avoir sa propre culture est contrebalancée par un pouvoir qu'on ne peut pas ni circonscrire ni circonvenir et qui est représenté par le Melkin. N'importe quel ressortissant de planète peut demander et éventuellement être accepté à l'intérieur du Melkin et parcourir la galaxie en étant une espèce de ferment de changement et de liberté. Voilà, c'est une grande réussite d'Olivier Paquet, réussite traversée par des références tout à fait intéressantes à l'opéra, à la vidéo, au cinéma, qui n'apparaissent pas forcément tout de suite. Pour moi, celui qui m'a marqué le plus, c'est un passage qui s'appelle « Et les étoiles brillaient » et qui est en fait une référence à un des plus beaux airs d'opéra que je connaisse, « Et l'Ocevan le stelle ». Et voilà. Donc, je ne vous lis pas ce passage-là parce que c'est un passage très fort et très émouvant et qu'il faut le découvrir au moment où il arrive dans l'histoire, sinon ce serait vraiment dommage. Mais je vais vous faire partager la puissance de description d'Olivier Paquet. La masse faisait sens. Chaque séquence, résultat d'un coup d'œil, d'une pause un peu prolongée, en attendant un ascenseur, ne disait rien. Anodin, pourrait-on dire. Des femmes plantureuses montraient des cubes de couleur à des gamins raides comme des piquets, ou deux hommes en complet veston dissertaient autour d'une table lumineuse, affichant des cartes tridimensionnelles d'une zone pavillonnaire. Impossible de faire le lien. Les élèves d'Indira avançaient par grappes, s'arrêtant un instant sur une telle émission de jardinage comme s'ils regardaient un documentaire historique, pendant que sur un autre écran, un pseudo-scientifique vantait les mérites d'un bain d'algues saponaires, omettant de préciser que ces dernières ne pouvaient être transportées hors de leur milieu naturel, à deux ou trois années-lumière de Babylone. Plus on approchait des zones de transit, plus la mosaïque de moniteurs se densifiait. Impossible de les éviter, de s'y soustraire. Ils vous happaient l'œil de leurs éclats colorés, vous enserraient dans un filet de sons, de voix acidulées, de musique lénifiante. Les images s'imposaient, envahissaient le cerveau, le rongeaient jusqu'à s'y faire une place. Il n'y avait pas besoin de messages, pas besoin de propos. Chaque spectateur comprenait la puissance de banquise dans la profusion d'écran. Les émissions ne mettaient en avant aucune culture, aucun décor identifiable. Des individus interchangeables au discours neutre. Ce que montrait la fréquence, c'était un monde sans conditionnement, sans particularisme. Cependant, même pour Indira, on y détectait une violence qui imprégnait chaque plan de caméra, chaque jungle. Un brouhaha gigantesque et chaotique représentait banquise. La voix tonitruante de la technoprophète s'exprimait dans ce flux. Pire, pour qui était attentif, et les gens du Melkin l'étaient, l'évidence s'imposait. Azuréa les regardait.
Nous avons aussi beaucoup apprécié le dernier Loup-garou de Glenn Duncan, traduit par Michel Charrier. Claude Eken va nous présenter cet ouvrage et nous en lire un extrait.
Alors, Jack Marlowe est évidemment le dernier loup-garou. Ça fait à peu près 2 siècles qu'il est sur Terre et qu'il est pourchassé sans arrêt, parce que c'est un loup-garou, par une organisation qui s'appelle l'OMPPO, l'Organisation mondiale pour la prédation des phénomènes occultes. Et il est là de se battre sans arrêt. Il est fatigué aussi de devoir céder à ses instincts à chaque pleine lune. C'est toujours « baisse, tu manges ». C'est le mot n'en fait plus qu'un, cette fois-ci, dans une partie. Et donc, il a décidé d'en finir. Son valet, qui lui est tout dévoué, un homme qu'il a sauvé un jour parce qu'il était pourchassé aussi pour ce qu'il était, mais il s'agissait de ses tendances sexuelles, regrette justement qu'il veuille en finir là parce qu'il pensait bien que peut-être lui disparaîtrait le premier et que le loup-garou continuerait, mais le loup-garou a décidé de mourir. Mais voilà, le fait même d'être pourchassé va peut-être réveiller la bête, parce que ça, c'est l'humain qui veut mourir, et le loup-garou, peut-être, n'a pas ce genre de pensée. Donc, avec énormément de références culturelles, littéraires, lorsque c'est l'humain qui s'exprime, et avec des scènes d'action assez violentes, bestiales, c'est un individu qui assume ses pulsions, on a un roman qui est tout à fait passionnant et qui a un bon équilibre sur ces deux parties. Et j'ai justement choisi un passage où c'est une conversation avec son serviteur, si l'on veut, qui lui reproche de vouloir s'en aller. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il enfin. « Aller au pays de Galles, en Snowdonia. Je n'y suis jamais retourné, tu sais. » Nous nous étions tous deux imaginés que nous aurions des choses à dire, que nous trouverions des choses à dire. Mais il se contentait de regarder le lac de toit frémissant. Je compris qu'il expérimentait le premier véritable avant-goût de sa vie sans moi, quelque chose comme la saveur caoutchouteuse de l'antiseptique employé en chirurgie dentaire. Il a tué tellement de gens. « Je te vois en Amérique du Sud, » déclarai-je. Pyjama de coton blanc, manguier, cour poussiéreuse, ciel bleu brûlant ponctué d'une demi-douzaine de nuages statiques d'un blanc pur. Pars en quête de beauté. Tu t'es persuadé que Dieu ne te pardonnerait pas, mais il n'existe qu'un seul Dieu, la beauté. Et la beauté pardonne tout, au bout du compte. Elle pardonne tout dans son indifférence infinie. J'allumai une camelle en examinant mon reflet. Harley s'installa sur un des canapés de velours bleu, la canne entre les genoux, alluma distraitement une gauloise, puis gratta d'un geste lent le grand dôme de son front. « Je n'arrive pas à y croire, » dit-il enfin. « Allez, Harley, les parents ne s'attendent jamais à enterrer leurs enfants. »« Je suis désolé, » dis-je. Petite phrase qui me donna ma première intuition de la capacité prodigieuse de ces adieux à m'épuiser, me désoler en effet. Comme si la décision de mourir m'avait privé de l'énergie nécessaire pour aller à la mort. « Je m'en vais aussi, » annonça Harley avant de poursuivre avec une gaieté satirique. « Je prends un mois de vacances. »« Je veux pas être là quand on te coupera la tête, tu comprends ?»« Où vas-tu ? » ?»« Aux Caraïbes, sur Barbuda. Une enclave à la Ballard, femme de neurochirurgien morte d'ennui, astronaute à la retraite, cadre des grands labos pharmaceutiques. Si j'en crois la brochure, ça ressemble fort à un univers virtuel. » Béton blanc et ciel outre-mer. Un bout du monde de modernité immaculée. En tout cas, tu as la garde-robe idéale. N'empêche qu'à mon avis, tu devrais aller au Brésil. Ne serait-ce que pour les jeunes gens. Tu n'es pas mort, Harley. Alors, autant continuer à vivre. C'est ça, médecin, soigne-toi de toi-même et de toutes ces sortes de choses, hein ? Le silence menaçait de se solidifier entre nous. Ce que nous ne pouvions nous permettre. Je me levai en titubant légèrement sur mes talons hauts et je le vis aussitôt penser. Non, pas encore, pas si vite, pas comme ça. Attends. Il n'y a pas de mot juste dans un moment pareil, affirmai-je. On est là à attendre que ça devienne moins douloureux, alors que plus on attend, plus ça devient douloureux. L'heure était à l'action et nous restions paralysés. On se tient debout parce qu'on ne peut voler. Je vais te le demander une fois. Une seule, dit-il. J'ai besoin de savoir que je te l'ai demandé. J'attendis. Dehors, Londres se concentrait, les sourcils froncés par une détermination sinistre à vaincre sa migraine économique. La capacité du monde à continuer pesait lourd sur mes épaules. Il produisait un jour singulier après l'autre. Il faisait éclore guerres et conversations. Il donnait naissance à des bébés sanglants et gobait les morts en silence. L'inconscient collectif humain ne le supporte pas. Il ne supporte pas la pensée que les choses continuent à jamais. Alors, il a décidé, inconsciemment, collectivement, de mener la planète à sa fin. L'éco-apocalypse ne doit rien au hasard. C'est au fond une stratégie de l'espèce. « Ne fais pas ça, » reprit Harley. « Ne m'abandonne pas à moi-même. Je ne suis pas capable de me suicider, tu le sais pertinemment. Qu'est-ce que ça peut te faire, une décennie de plus ? Je serai mort bien avant. Reste. Je ne peux pas. Tu n'es qu'un sale égoïste. Tu es au courant, j'espère. » Oui. Il rouvrit la bouche, prit conscience de la futilité de la chose, laissa tomber. Tirant de sa poche un mouchoir blanc froissé, il s'essuya les yeux, posa très lentement son verre et écrasa sa cigarette. Lorsqu'enfin son regard se releva vers moi, j'ai lu la peur de ce qui allait suivre. L'avenir lui réservait une horreur, lui-même, qu'il n'affronterait pas avant d'y être obligé, de ne plus avoir le choix, de me savoir mort. Ses traits frémissaient comme l'eau sur les toits plats. Et maintenant, on se dit adieu, c'est tout ? On se dit adieu, et c'est tout, acquiesçai-je. Il te reste une semaine. Tu vas changer d'avis. Viens ici. C'était un vieil homme que je serrais dans mes bras, de la peau et des os enveloppés d'un complet trop vaste, des cheveux rares et une odeur de cuir chevelu, accompagné de relents médicinaux, baume du tigre ou stick wix. Par habitude, je scrutais mes émotions. La tristesse, le regret, une vague impression de deuil, peut-être, mais aussi l'ennui indéniable, couplé à une sorte d'impuissance du cœur. Assez, 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 répétait ma voix intérieure. Tu as été un très bon ami. Il ne répondit pas. Je me retournai à nouveau, ouvris la porte, sortis, la refermai derrière moi.
Et nous avons enfin beaucoup apprécié Les damnés à l'asphalte de Laurent Whale, que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit d'un roman post-apocalyptique, d'aventure, trépidante, un groupe qui part à la recherche des siens, disparus depuis un certain temps, qui va traverser une partie de la France, qui va traverser l'Espagne, rencontrer moult problèmes, moult et bataille pour la gloire, pour le plaisir et pour l'amitié. « Salut le kid !» me lança Cheyenne dès que je poussais la porte en m'ébrouant. « Alors, comment ça s'est passé ?»« C'est plus fort que lui. Je suis et je resterai le kid. » Le sourire qui me vient n'est pas forcé. J'aime ce grand type taciturne comme un deuxième frère. L'ancien hors-mur fait office de beaucoup plus que ça. Depuis que nous nous sommes installés ici, c'est lui qui s'occupe des contacts avec les clans errants et les HM, les hors-murs, ses ex-frères d'infortune. À plusieurs occasions, il nous a sauvé la mise. Sa haute stature, ses cheveux longs et sa science des armes en font un homme respecté chez ceux de l'extérieur. C'est lui aussi qui patrouille avec l'hélico solaire et se charge avec quelques gars de maintenir les hordes de chiens sauvages à distance. Ce qui, accessoirement, nous permet de reconstituer des stocks de viande. Il est notre ange gardien, en quelque sorte. À ses côtés se tient Tony, également venu de Ponto lors du vol légendaire immortalisé par les gribouillis du gosse. Également pilote, il est entre autres fonctions le parrain de cœur de Vincent. Celui-ci porte le prénom de son frère décédé en combattant pour Tom. Lorsque ce dernier lui avait annoncé son intention de nommer le bébé à sa mémoire, il n'avait pu retenir ses larmes. En toute logique, il a pris le gamin sous son aile et lui déroule les ficelles de la vie. Bien sûr, Tom et moi n'avons pas été en reste en ces temps troublés. Mais depuis 3 ans, il remplit le vide causé par la disparition de son père, comme il peut. On se relaie aussi avec sa mère. Quand il ne s'occupe pas du gosse, il part pêcher avec Aziz, le dernier membre de l'escadrille de Ponto. Mais le poisson se fait rare dans une mer trop polluée. Et maintenant, le suspense est à son compte, est à son comble. Qui est le lauréat? Eh bien, il s'agit de Gail Carriger pour Le Protectorat de l'Ombrelle, traduit par Sylvie Denis aux éditions Orbite. Et je vais demander à Audrey Petit, du Livre de Poche, qui a été la première éditrice de Gail en France, de venir nous rejoindre.
Alors, merci beaucoup. Je vais vous lire un petit mot que Gail m'a envoyé quand je lui ai annoncé la nouvelle, ce qu'elle m'a répondu. Waouh, je cite. Merci beaucoup, quelle merveilleuse nouvelle. C'est la première fois que je remporte un prix en littérature de genre, et bien sûr, il a fallu que ça vienne de vous, de la France. J'avais entendu parler du prix Julia Verlanger, et je suis très honorée de l'avoir cette année. Je remercie mes lecteurs français d'avoir ainsi donné leur chance à des livres dont l'action se déroule en Angleterre. Pas pourquoi elle dit ça. Mon éditeur et ma traductrice Sylvie Denis pour leur travail. Et merci à tous de m'avoir si bien et si chaleureusement accueillie en France en mai dernier. Elle était en fait aux Imaginales d'Épinal et à Saint-Malo aux Étonnants Voyageurs. Et bien sûr, merci aux membres du jury du prix Julia Verlanger. Je suis très choyée par la France. Voilà.
Merci Audrey.